on est dans une logique inverse, c'est-à-dire que les travailleurs sociaux deviennent de la main-d'œuvre. C'est-à-dire, ça sert dans le discours.
Regardez ce que j'ai dans les mains.
La
loi 2020-2022.
Ah, c'est 2022,
c'est 2022, c'est la loi 2022.
Voilà. Bref, tout un ensemble de changements organisationnels qui viennent perturber, finalement, le quotidien des salariés, les conditions de travail, et finalement viennent saper le sens que les salariés trouvent à leur travail.
Je sens que ta reconnaissance baisse un peu, si tu me lâches.
Donnez. Tac, tel un disjoncteur différentiel. Finalement, c'est une sorte de pulsion de vie. Le burn-out, c'est une façon aussi de se mettre en sécurité.
L'important est de partager avec les jeunes une tendresse pour les choses de la vie.
Mais conforter l'hypothèse d'un changement de rapport au travail.
Oui, mais j'invite les professionnels à réfléchir à leurs solutions.
On peut avoir été épuisé un jour dans son parcours et malgré tout, avoir encore du plaisir à exercer.
Le travail bien fait génère du bien fait.
Paradoxe du vécu professionnel en travail social. Épisode 1. Comprendre l'épuisement professionnel. Les 30 et 31 janvier 2025 se tenaient à l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, ENPJJ, deux journées de valorisation de la recherche. En association avec la revue Les Cahiers Dynamiques, cette mini-série de podcasts en 3 épisodes vous propose une synthèse de ces journées et se veut un supplément radio accompagnant la sortie de son numéro 85, directement issu de l'événement. Nous parlerons d'épuisement professionnel dans ce premier épisode, de satisfaction au travail dans le deuxième, et enfin, dans le troisième, nous nous demanderons comment soutenir, accompagner les professionnels et prévenir l'épuisement. Mais avant cela, écoutons Malvira, chercheur en psychologie et pilote de la journée, qui nous présente le contexte et le principe de cet événement.
L'ENPJJ, c'est l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse, qui est à Roubaix. C'est une école du ministère de la Justice qui forme avant tout, mais pas uniquement, les professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse. Et dans cette école, il y a un service qui s'appelle le service de la recherche et de la documentation qui organise chaque année des journées de valorisation de la recherche, alors à destination des professionnels de la protection judiciaire de la jeunesse, mais plus globalement des professionnels de la protection de l'enfance, et même ça peut même être encore plus large, et puis aussi à destination d'étudiants, de chercheurs éventuellement. Et ces journées prennent chaque année un nouveau thème et permettent d'aller diffuser un ensemble de connaissances issues de la recherche auprès des terrains professionnels.
Salut les gens de terrain.
Salut les gens de terrain.
Ah, vous êtes venus prendre du recul, hein, ouais.
Ouais.
Ça fait du bien, hein.
Ouais, sur les bancs de l'école.
En même temps, ça donne un petit peu de temps pour lire ses mails et écrire ses derniers rapports.
Ouais. Mais bon,
parce que, bon, on est charrette, hein.
Cette année, l'événement avait pour titre « Le plaisir professionnel à l'épreuve du travail en protection de l'enfance, entre épuisement et satisfaction ». Pourquoi cette thématique et ce choix de la double entrée, à la fois épuisement et satisfaction ?
Quand on commence à s'intéresser au vécu des professionnels, on s'aperçoit que le secteur, on va dire très largement, de la protection de l'enfance est un secteur dans lequel ce vécu est très caractéristique. Il se caractérise à la fois par des taux d'épuisement très élevés qui dépassent la plupart des autres secteurs du travail social, mais en même temps par des niveaux d'engagement et parfois de satisfaction également très élevés. Et parfois, on va trouver des personnes qui sont tout autant stressées, fatiguées, épuisées, mais en même temps qui continuent de trouver du sens et de la satisfaction dans leur travail. Ce qui, du coup, amène à chercher à mieux comprendre ces vécus professionnels, les vécus professionnels dans ce secteur-là. On peut parler d'une prise de conscience et d'un intérêt à commencer par les professionnels eux-mêmes, qui commencent à s'y intéresser, à se dire « Ah mais oui, tiens, il y a des choses qui peuvent expliquer ce que je ressens », et on va dire « Tant mieux quelque part », parce que c'est avant tout en étant au courant qu'on peut aussi se protéger des effets que peuvent avoir parfois des vécus trop difficiles au travail.
Voilà, ceci étant dit, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous d'excellentes journées de valorisation de la recherche. Merci beaucoup.
Une conférence proposait d'aborder l'épuisement professionnel des travailleurs sociaux et d'en comprendre les inducteurs, c'est-à-dire les éléments susceptibles de déclencher le phénomène. Pascal Desrumaux est professeur de psychologie du travail et des organisations au laboratoire Psytech de l'Université de Lille. Pour commencer, elle définit la notion d'épuisement professionnel.
Alors, l'épuisement professionnel est un risque psychosocial qui est connu depuis très longtemps. Et on va parler de Freudenberger dans les années 74 et puis de Christina Maslach dans les années 80. Et qu'ils l'ont identifié comme un phénomène d'ailleurs difficilement repérable parce qu'il ressemblait un peu à un incendie qui de l'intérieur a ravagé un immeuble mais qui ne se voyait pas a priori. Christina Maslach a davantage spécifié en considérant qu'il y avait trois dimensions. Le premier, c'est l'épuisement émotionnel qui recouvre un épuisement physique et aussi un épuisement lié à la difficulté face à la charge et à la difficulté de continuer à travailler, étant donné une forme de fatigue double, émotionnelle et physique. Le deuxième, c'est la dépersonnalisation, c'est-à-dire que les personnes qui vivent un épuisement vont se distancier. Elles vont diminuer leur réponse aux sollicitations, prendre du recul et même parfois considérer les personnes plutôt comme, ça peut aller jusqu'à les considérer comme des objets ou des instruments. Et la pensée d'aller au travail devient pénible pour ces personnes. La troisième dimension, c'est la perte du sens d'accomplissement. C'est-à-dire qu'elles elles avaient choisi ce métier par vocation ou par passion et puis il y a une perte de sens qui fait qu'elles ne voient plus les résultats de leurs interventions, de leurs pratiques comme efficaces, positifs et donc leur quête existentielle est touchée. Alors en parlant de quête existentielle, une autre auteure a évoqué l'idée que le burn-out était finalement une perte de sens qui est liée au fait que la personne avait été au départ enflammée, passionnée, motivée, très impliquée et que confrontée à des difficultés, des obstacles qu'ils viennent des institutions, de l'employeur ou des publics avec qui elle travaille et finalement perdent le sens de leur travail. Il y a encore une autre façon de le définir. Il y a des auteurs qui insistent sur le fait que c'est la résultante d'un stress chronique.
Quatre approches complémentaires pour comprendre un phénomène complexe. Que peut-on dire sur la particularité de ces métiers du travail social ?
Alors, les travailleurs sociaux sont parmi les métiers les plus touchés. Les métiers les plus touchés sont les métiers relationnels. Hein, donc, on va retrouver les soignants, les travailleurs sociaux, mais aussi les métiers de la distribution et tous les cadres, hein, de quel que soit leur secteur, parce que ce sont des métiers de relation. Alors, on a appelé le burn-out la maladie du battant. Mm-hmm. Hein, on va retrouver les cadres, mais on l'a aussi appelé la maladie du don. Hein, mm-hmm. Et donc, bien sûr, on comprend vite que c'est connecté avec des valeurs ou avec une pression qui peut venir d'un système scolaire ou qui peut venir de l'intention d'être efficace, performant dans un métier.
Au cours d'une table ronde ce jour-là, Mariam Essaidi, professionnelle du secteur, avait pu témoigner de son expérience personnelle.
Je suis éducatrice de la protection judiciaire de la jeunesse, où j'ai exercé pendant 9 ans en tant qu'éducatrice, puis en tant que formatrice à l'UNPJJ et aujourd'hui responsable territoriale de l'aide sociale à l'enfance. Donc autant vous dire que mes différentes expériences professionnelles m'ont amenée à être fatiguée parfois et à connaître l'épuisement professionnel. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, et je peux en parler après quelques années, avec beaucoup de facilité, parce que je trouve que c'est encore un sujet qui est tabou, qu'on ne s'autorise pas forcément à en parler, en tout cas, moi, à mes yeux. La question de l'épuisement professionnel, le premier mot qui me vient, c'est le terme culpabilité. La culpabilité d'être trop au travail, pas assez dans sa vie personnelle, et quand on est dans sa vie personnelle, d'être trop, pas assez, il y a toujours cette question, là, en tout cas, moi, qui a fait qu'à un moment, j'en suis arrivée à m'épuiser, à ne plus avoir de force, ni pour être éducatrice, ni pour être maman, ni pour être moi. Et donc, moi, l'épuisement professionnel, c'est quelque chose que j'ai dû appréhender, accepter, m'arrêter pour comprendre à un moment ce qui avait pu se passer pour que j'en arrive, au sens propre comme au sens figuré, à en avoir plein le dos.
Florie Barois, psychologue clinicienne et superviseuse au département du Nord, accompagne pour sa part les professionnels et observe les difficultés qu'ils et elles rencontrent. Elle nous explique que l'épuisement peut s'exprimer à travers différents symptômes.
Les professionnels peuvent manifester une grande fatigue physique, psychique, émotionnelle, une irritabilité plus importante, des pleurs qui vont surgir parfois de manière un peu inopinée, vont se laisser prendre par leur émotion, des problèmes de sommeil, des troubles du comportement alimentaire, parfois des affects dépressifs, des troubles anxieux, ça peut aller jusque-là. Certains vont prioriser la relation, ou beaucoup même, vont prioriser la relation aux enfants et aux familles, plutôt que la part administrative qui a pris une place de plus en plus importante. Donc une forme de bureaucratisation du travail social qui s'instaure. Et donc ils ne vont pas forcément faire leur rapport la journée, certains vont faire leur rapport le soir, donc sur leur temps personnel, qui va impacter la vie de famille, qui va impacter la relation conjugale.
Florie Barois a également pu observer au fil de ses séances de supervision différentes causes de souffrance qui reviennent chez les professionnels qu'elle rencontre.
Alors il y aurait dans un premier temps la charge émotionnelle en lien avec les situations rencontrées, parce qu'on est quand même sur des problématiques autour de la protection de l'enfance, donc avec des profils d'enfants qui sont de plus en plus abîmés en fait. Aujourd'hui on a beaucoup la prostitution, les tentatives de suicide, les suicides des jeunes confiés à l'ASE, on est quand même sur des thématiques assez lourdes. Qui prennent aussi les professionnels aux tripes, en fait. Donc on a ça. On a aussi les résonances avec les parcours de vie personnels, parce que beaucoup de professionnels qui travaillent en protection de l'enfance ont eux-mêmes un vécu, alors pas forcément de protection de l'enfance pure, mais en tout cas des histoires familiales qui ont pu être compliquées, parfois des situations avec de la violence conjugale, avec aussi de l'abus sexuel dans l'enfance. Donc voilà. Pas uniquement, mais c'est quand même présent, et avec cette volonté aussi d'être utile, de pouvoir accompagner et parfois de pouvoir sauver. Donc c'est aussi quelque chose qu'on peut travailler en supervision. Ensuite, nous avons les problématiques de ressources humaines, aussi la charge de travail, le turnover dans les équipes, avec des temps de vacances de poste qui impliquent pour les professionnels restants dans les équipes de pouvoir assurer la continuité du service public, et donc une charge de travail qui augmente pendant parfois plusieurs mois. Donc ça ajoute de la complexité. On est aussi confronté en protection de l'enfance à un manque de moyens par rapport à l'accueil. Donc ça met les professionnels en grand conflit de valeurs. Ils sont pris entre différentes temporalités. La temporalité des usagers, la temporalité de l'institution, la temporalité juridique et leur propre temporalité. Donc on a ça. Il y a le côté télétravail qui est de plus en plus présent, avec des limites aussi à poser autour de quel usage du téléphone professionnel, quel usage de l'ordinateur, qui vient aujourd'hui entrer pleinement dans la sphère personnelle.
Du côté de la recherche, le phénomène est également observé et étudié à partir de concepts formulés un peu différemment, mais qui rejoignent globalement les observations de Florie Barois. Pascal Desrumeau, quels sont les facteurs d'épuisement que votre travail d'enquête ont pu révéler ?
Avec Nawal Bouterfass, qui a fait sa thèse sur le burn-out et le bien-être des travailleurs sociaux, on a effectivement trouvé qu'il y avait quatre catégories de facteurs qui pouvaient jouer. Et donc, en psychologie du travail, on a tendance à identifier des facteurs qui viennent de l'organisation, organisation au sens entreprise, des facteurs psychosociaux, et puis des facteurs liés au travail et des facteurs personnels. Les variables qui ressortaient le plus étaient la charge de travail et la charge émotionnelle. La charge émotionnelle que ressent le travailleur social quand il accompagne une personne, mais aussi l'émotion qui est partagée et qui peut toucher aussi le travailleur social. Enfin, il y a d'autres formes d'émotions comme la dissonance émotionnelle, le fait d'avoir à poser des actes et des pratiques que le travailleur social réprouve, le fait aussi d'être en dissonance par rapport à ses propres valeurs et les valeurs, par exemple, de la famille ou d'une organisation, et puis encore le fait d'être confronté à des situations de danger, de violence, dans lesquelles il va réprimer ses émotions pour essayer de gérer au mieux la situation. Voilà, donc la charge, et puis il y a aussi le soutien de la hiérarchie qui est une variable qui est déterminante, parce que s'il y a soutien, ça va faire baisser les chances de faire un burn-out. Si les personnes ne se sentent pas soutenues par leur responsable d'équipe, on a des risques de burn-out. Au niveau organisationnel, on a trouvé que les sentiments d'injustice organisationnelle peuvent faire le lit du burn-out. Et enfin, la résilience également, qui est une force finalement individuelle. L'estime de soi est apparue dans d'autres études. Dans cette étude-ci, c'est la résilience du travailleur social qui est aussi un appui, un levier, ainsi que la satisfaction des besoins psychologiques.
Les apports de Pascal Desrumaux résonnent avec une autre conférence de la journée, celle de Séverine Heuillet, maîtresse de conférences en sciences de l'éducation et de la formation au CREF de l'Université Paris-Nanterre, et de Camille Verheyden, doctorante à la Vrije Universiteit de Bruxelles. Elles étaient venues présenter les résultats d'une étude réalisée cette fois auprès de familles d'accueil en France et sur deux territoires différents de Belgique. Ces chercheuses ont focalisé leur présentation sur un phénomène précis, celui du stress traumatique secondaire. Séverine Heuillet nous explique ce concept et son intérêt dans la compréhension de l'épuisement professionnel.
Le stress traumatique secondaire, c'est le fait d'être impacté par le trauma vécu par des personnes que l'on aide, et plus précisément, il se manifeste par des symptômes résultant de l'exposition indirecte au trauma des personnes accompagnées, et dans le cas présent, par exemple, par le trauma vécu par les enfants accueillis par les assistants familiaux ou les parents d'accueil. Et ce stress traumatique secondaire, il est une des composantes de la qualité de vie professionnelle parmi d'autres. Cette fonction d'accueillir, eh bien, amène ces adultes à être particulièrement confrontés aux symptômes post-traumatiques des enfants eux-mêmes qui, en étant concernés par la protection de l'enfance, ont pu avoir un vécu, plusieurs vécus, voire des parcours traumatiques. Et aujourd'hui, on parle même de trauma complexe pour ces enfants-là. Et donc, c'est un élément qui est important à considérer pour les assistants familiaux ou les parents d'accueil, mais pas que. Le stress traumatique secondaire, on le voit dans beaucoup de métiers de la relation d'aide.
Le stress trauma secondaire,
ça c'est quand tu...
Vous avez compris, ça?
On t'a tellement raconté des trucs horribles que t'as l'impression que ça s'est arrivé. C'est ça, hein, ouais, c'est le stress traumatique secondaire.
Ouais,
t'as l'impression que ça arrive à toi quand t'es passé... voilà,
en fait,
ça t'arrive à toi.
Ouais.
Ah oui, ça c'est quand tous les chakras se referment et qu'on peut plus accueillir.
Si l'étude menée mesure de nombreux facteurs révélant un phénomène complexe, encore une fois, Séverine Heuillet propose de retenir trois éléments clés.
Premièrement, il y a la question de l'information par rapport au traumatisme de l'enfant, où on voit que c'est un élément qui, dans le paysage de la qualité de vie professionnelle, c'est un élément important en termes de préparation, de pouvoir accueillir ce stress-là, d'avoir suffisamment d'informations. Un deuxième point qui apparaît aussi, c'est le niveau de formation, où on voit qu'au niveau de l'environnement personnel, la formation contribue aussi à un facteur de protection au-delà de la reconnaissance d'un diplôme. C'est aussi une familiarité à pouvoir se former, à se poser des questions et à être peut-être aussi plus à même à partager, à évoquer collectivement ces difficultés-là. Et le troisième aspect, c'est aussi la question de l'équilibre entre les tâches liées à la fonction d'accueil et les tâches vraiment liées à la vie familiale, où on voit que c'est un élément qui est vraiment transversal et qui pose de nombreuses questions. Aussi, on fait le parallèle avec la question des compétences, de qu'est-ce qui est attendu, où les assistants familiaux peuvent avoir besoin aussi d'être entendus sur leurs besoins à ce niveau-là pour accompagner leurs pratiques au quotidien et se sentir relativement serein au niveau de cette qualité de vie pour pouvoir accompagner l'enfant au quotidien.
Comme l'explique Séverine Heuillet, la question du bien-être professionnel est donc liée à la question des perceptions et des attentes des professionnels, ici dans le cas des assistants familiaux.
L'intérêt de certaines parties de ce questionnaire, c'est de poser la question aux familles d'accueil sur ce qu'ils perçoivent, c'est-à-dire vraiment leurs sentiments subjectifs. Par exemple, pour la charge de travail, c'est le fait de sentir, d'avoir une impression d'avoir une charge de travail, quelle qu'en soit la réalité. Il ne s'agit pas de la mesurer en termes de chiffres. Et donc, dès qu'on pose la question à une personne sur son ressenti, sur sa perception, ça vient aussi convoquer les attentes, finalement, par rapport à la charge de travail. C'est aussi cet élément-là. Donc, c'est aussi une des pistes, quand on parle de qualité de vie professionnelle, c'est aussi aller investiguer quelles sont les attentes de ces professionnels pour pouvoir se sentir, d'après eux, dans un niveau de bien-être suffisant pour pouvoir exercer leur métier qui leur apporte suffisamment de satisfaction. Donc, une des pistes, un des prolongements, c'est aussi de demander aux assistants familiaux de quoi auraient-ils besoin, quelles sont leurs attentes vis-à-vis de leurs collègues proximaux, de leurs supérieurs hiérarchiques, de l'institution, de l'organisation même qui les emploie là en l'occurrence.
Pour Florie Barois, psychologue superviseuse au Conseil départemental du Nord, les besoins exprimés par les professionnels peuvent se résumer comme ceci.
Les besoins qui sont exprimés par les professionnels touchent beaucoup à la reconnaissance de la part de leur institution, de ce qu'ils peuvent traverser, la reconnaissance de la part de leur hiérarchie et aussi de leurs collègues. En fait, on est vraiment sur un lien humain à toutes les strates qui peuvent leur permettre peut-être de se préserver, de se protéger. La relation aux enfants et aux familles accompagnées aussi. Le temps de qualité qui peut être passé auprès des familles est très important et protecteur parce que c'est ça qui va redonner du sens à ce que font les professionnels. Les temps de formation sont ressourçants et les espaces de prise de recul, donc en supervision, les groupes d'analyse de pratique également, et même les réunions de service en fait. Mmh. Juste avoir le sentiment d'appartenir à un tout. Je pense que ça peut être très ressourçant, le lien humain.
Et voilà, il resterait bien des choses à dire, mais on perçoit déjà la complexité du phénomène qui a besoin de différents niveaux d'analyse pour être mieux compris. Il y a certes le niveau personnel, mais aussi le contexte organisationnel et social dans lequel les professionnels évoluent. Nous reviendrons sur les éléments qu'il est possible d'actionner pour protéger les professionnels dans le troisième et dernier épisode de ce podcast. Mais avant cela, place à la question de la satisfaction au travail dans l'épisode 2.
Mouah, mouah, mouah. Oh là là là.
Quelle douceur!
C'est du sucre, ces témoignages! Oh,
c'est moi. Du miel!
C'est du chaud doudou dans le cœur!
De la douceur, du plaisir, en fait!
Oh là là!
Wow.
Du plaisir, enfin, c'est aujourd'hui!
Satisfaction!
Ah.
Wow.
C'était une production du studio Alaphonie pour l'École nationale de protection judiciaire de la jeunesse et la revue Les Cahiers Dynamiques. Un grand merci à tous les participants et participantes des Journées de valorisation de la recherche pour leurs diverses contributions. Merci à Perrine Cheval et Marjolaine Réfrégier, chargées d'édition et de projets éditoriaux à l'ENPJJ, qui ont permis et accompagné la réalisation de ce podcast. Les extraits humoristiques sont issus des impromptus du Bataclown, les clowns analystes qui ont ponctué les journées de leurs interventions. La musique du générique a été composée par Christophe Esperne.